Nous voilà arrivés à la mi-temps de ce live grand format. C'est avec Mathias et Lenny que nous allons plonger maintenant dans la géopolitique actuelle avec un géopoliticus au format exceptionnel. C'est à vous les garçons.
Bonjour à vous et bienvenue dans la rubrique géopoliticus. Pour cette dernière, nous avons imaginé avec Lenny un format un peu spécial. En effet, nous avons demandé à nos enseignants de spé, Madame Lefebvre et Monsieur Casal, quels étaient selon eux le ou les événements géopolitiques à retenir de cette année. Puis, nous en discuterons avec Lenny. On commence par Madame Lefebvre.
Bonjour.
Donc, je voudrais vous demander actuellement quel est l'événement qui vous a le plus marqué cette année.
Alors, au niveau géopolitique, il s'est passé pas mal de choses. Alors, forcément, j'ai envie de te parler du conflit israélo-palestinien, de toutes ces évolutions, de ce qui se passe en ce moment avec l'Iran. Mais j'ai aussi envie de parler de quelque chose dont on parle beaucoup moins, c'est tout ce qui se passe en Amérique latine. Parce qu'en Amérique latine, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'évolutions. Haïti qui est passé entre les mains des gangs, l'Équateur, le Salvador. Enfin, il y a pas mal de choses, effectivement, dont on parle pas beaucoup et pourtant, il se passe pas mal de choses.
Oui, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien a tendance à masquer en réalité ce qui se passe à l'international, mais c'est vrai que d'un certain point de vue, il faudrait qu'on porte l'œil un peu plus sur ce qu'il se passe dans les autres pays, comme vous l'avez dit, dans l'Amérique du Sud. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir tendance à oublier ce qui se passe en réalité dans notre monde.
Et oui, surtout qu'en fait, quand on regarde un petit peu, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un pays par-ci, un pays par-là, Haïti par exemple, l'Équateur comme tu disais. Et en fait, quand on les met bout à bout, ça représente quand même une part importante de l'Amérique latine, de l'Amérique, et ça fait beaucoup de pays. Et puis c'est des pays quand même, pardon, qui ont du poids au niveau économique, qui sont quand même importants quand on les groupe tous. Donc c'est vrai que leur situation politique en ce moment, la montée des gangs, et à l'inverse, je dirais, la tendance d'aller un petit peu dans la lutte anti-gang, là, avec Bekele, par exemple, qui est devenu un peu ce dictateur, je dirais presque cool, d'ailleurs, comme il s'est autoproclamé, parce qu'il a trouvé une solution radicale, hein, d'ailleurs, pour lutter contre les gangs. C'est vrai qu'on voit aussi qu'en Amérique latine, il y a pas mal de choses, et ça aussi, à mon avis, ça aura une résonance mondiale.
D'accord, je vois. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de pouvoir nous expliquer votre avis sur la situation actuelle. Et je souhaite donc une bonne journée à vous.
Merci, avec plaisir, bonne journée.
Merci à Madame Lefebvre d'avoir partagé votre sentiment avec nous. Je vais donc à présent essayer de recontextualiser son choix afin de mieux vous faire comprendre les sujets qu'elle évoque. Il est vrai que la situation géopolitique récente de l'Amérique latine est devenue de plus en plus tendue depuis quelque temps. Bien que le conflit israélo-palestinien est sans doute l'événement qui retient le plus l'attention depuis octobre dernier, il est clair qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'il se passe en Amérique latine. Le problème qui lie les trois pays cités par Madame Lefebvre, les gangs et les narcos. Commençons avec les situations en Équateur, que Lenny avait déjà abordé dans un numéro précédent de Géopoliticus. José Adolfo Macias Villamar, aussi connu sous le nom de Fito, purge une peine de prison de 34 ans pour crimes organisés, trafic de drogue et meurtre. Il est le chef de la plus grande bande criminelle d'Équateur, les Choneros. Néanmoins, le 7 janvier 2024, celui-ci réussit à s'évader de la prison sécurisée où il était enfermé, entraînant dans le pays des émeutes, dans les rues et dans les autres prisons dans lesquelles des fonctionnaires de prison ont été détenus en otage. Ainsi, le président, face aux violences, a décidé d'instaurer un couvre-feu et a finalement déclaré que le pays était en conflit armé interne. Ce qui a mené à la mobilisation et l'intervention de l'armée pour rétablir l'ordre. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi et les violences ont persisté. Par exemple, des hommes armés ont fait irruption en direct sur le plateau d'une émission de télévision où d'autres chefs de gang comme Fabricio Colopico se sont eux aussi échappés de prison. Pour la situation d'Haïti, il faut remonter à juillet 2021, après l'assassinat du président Jovenel Moïse qui a gravement déstabilisé la situation de l'île des Caraïbes. Depuis, des gangs armés ont commencé à semer la terreur dans le pays et fin février 2024, ces derniers ont pris le contrôle sur plusieurs zones du pays, en attaquant notamment des postes de police et les deux plus grandes prisons du pays. Cela a entraîné l'évasion de milliers de prisonniers et chefs de gangs. Le gouvernement a donc décrété l'état d'urgence dans la capitale du pays. Selon Jimmy Chemisier, surnommé Barbecue, l'un des chefs de gang les plus influents du pays, les attaques sur le pays auraient pour but de renverser le premier ministre de transition, Ariel Henry, l'accusant d'être responsable de la situation catastrophique dans le pays. Les gangs ont également réagi au fait qu'Ariel Henry souhaitait rester au pouvoir jusqu'en 2025, dans un pays qui n'a pas connu d'élection depuis trop longtemps. Le Premier ministre était d'ailleurs au Kenya lorsque les gangs se sont emparés de la capitale, voyage entrepris pour conclure un accord sur l'envoi de policiers kenyans censés rétablir l'ordre. Il n'a ensuite jamais pu atterrir sur le sol haïtien. Selon l'ONU, la corruption, l'impunité et la mauvaise gouvernance aggravées par les niveaux croissants de violence des gangs ont érodé l'état de droit et conduit les institutions au bord de l'effondrement. Un conseil présidentiel de transition s'est finalement mis en place après la démission d'Ariel Henry, avec pour but de rétablir l'ordre et la stabilité. La population fait les frais avec cette situation, avec des migrations forcées, des violences et des viols, des meurtres et des pillages. Enfin, pour ce qui est du Salvador, en 2019, Nayib Bukele a été élu président de la République du Salvador. Celui-ci fait rapidement de la lutte contre les gangs son obsession, et cette guerre anti-gang est majoritairement soutenue par l'opinion publique. Suite à une montée de la violence au Salvador il y a 2 ans, le président décide d'aller encore plus loin et déclare l'état d'exception, c'est-à-dire que des villes entières sont quadrillées par les forces de l'ordre et contrôlent les habitants pour vérifier qu'ils ne portent pas de tatouages signalant leur appartenance à un gang. En 1 an et demi, 74 000 membres présumés des gangs sont arrêtés et beaucoup sont emprisonnés dans des prisons de haute sécurité. Cependant, beaucoup de personnes sont arrêtées, parfois juste sur un soupçon, et cela provoque des polémiques sur ces arrestations hasardeuses. Certains dénoncent donc la politique du président ultra-répressive. De plus en plus d'éléments sur des cas de torture, d'humiliation et de détention arbitraire prouvent également que les prisonniers sont traités sans respect des droits humains. Voilà ce que je pouvais dire à propos du choix de Madame Lefebvre. Léni, je te laisse le micro.
Merci Mathias et bonjour à tous. En ce qui me concerne, c'est Monsieur Casal qui a bien voulu répondre à ma question. Écoutons, quel est son choix ?
Bonjour Monsieur Casal.
Bonjour.
Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. En dehors du conflit israélo-palestinien, que nous avons déjà abordé dans un précédent épisode, quel aspect de la géopolitique mondiale retenez-vous depuis la rentrée de septembre ?
Alors, je dirais probablement les attaques des rebelles houthis en mer Rouge pour perturber le trafic mondial.
En effet, c'est un événement géopolitique majeur de ces derniers mois et nous allons nous pencher sur cette série d'attaques qui a secoué la région de la mer Rouge et où les forces houthis ont récemment intensifié leurs actions. Ces événements ont des répercussions importantes sur la sécurité maritime et la stabilité régionale. Rentrons, si vous le voulez bien, un peu plus dans les détails. Depuis plusieurs années, les Houthis, un groupe rebelle du Yémen, grand pays plutôt pauvre du sud de la péninsule arabo-persique, ont été engagés dans un conflit contre le gouvernement yéménite, ce dernier étant soutenu par l'Arabie saoudite. Ces affrontements ont eu des conséquences dévastatrices pour la population civile et ont créé une crise humanitaire majeure dans la région. Mais, ces derniers mois, les Houthis ont également intensifié leurs attaques contre des navires civils et militaires naviguant dans la mer Rouge, l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde. Les attaques comprennent des tirs de missiles et des attaques de drones visant des porte-conteneurs, des pétroliers et même des installations portuaires et s'inscrivent en marge du conflit entre Israël et le Hamas qui a démarré en octobre dernier. Ces attaques ont des implications majeures pour le commerce mondial, car la mer Rouge est un passage vital pour le transport de marchandises entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La perturbation des routes maritimes dans cette région peut entraîner des retards, des hausses de prix et des incertitudes pour les entreprises et les consommateurs du monde entier. Face à ces attaques, la communauté internationale a condamné fermement les actions des Houthis et a appelé à la désescalade du conflit au Yémen. Elle a également riposté militairement pour marquer sa volonté de renforcer la sécurité maritime dans la région et protéger les voies de navigation critiques. Parallèlement, des pourparlers de paix sont en cours pour trouver une solution politique durable au conflit yéménite. En conclusion, les attaques houthis en mer Rouge soulignent les défis persistants auxquels la région est confrontée en matière de sécurité et de stabilité. La crainte d'un embrasement régional n'est que plus tendue, en particulier depuis les tirs de missiles de l'Iran contre Israël pour riposter au bombardement d'une de ses ambassades en Syrie.
Merci pour ces éclaircissements les garçons, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Que retenez-vous de cette année géopolitique ?
Moi, je trouve tout de même que le conflit qui oppose Israël et le Hamas reste l'événement le plus chaud des derniers mois. Comme l'a rappelé Léni et suggéré M. Casal avec son choix, la situation est explosive et l'embrasement régional n'est jamais loin, même si l'Iran n'a pas vraiment intérêt à entrer dans un conflit ouvert avec Israël. Rappelez-vous, j'avais proposé un géopoliticus sur le conflit israélo-palestinien pour le replacer dans son histoire longue. Et c'est sans doute la recherche d'une solution à 2 États qui pourrait faire avancer les choses, même si pour l'instant, l'avenir semble bouché.
Moi, je partage le choix de Madame Lefebvre. J'avais proposé un géopoliticus sur la situation en Équateur et on s'aperçoit que les États faillis et la prise de pouvoir des gangs liés au narcotrafic est un vrai désastre, avec une ampleur dont on a peine à prendre conscience. Entre repli nationaliste dans les démocraties libérales et fragilisation des États les plus faibles, les cartes des équilibres mondiaux se rebattent en ce moment.
Merci Mathias et Lénie de nous avoir guidés dans cette année riche en événements importants. Sans transition, place à notre quatrième talent présenté par Max.
Et oui Charlotte, puisque c'est le moment pour Ilona de nous révéler sa voix. Alors Ilona, est-ce que tu peux te présenter en trois mots ?
Oui, bon bah ce sera pas trois mots, mais bonjour, rebonjour à tous. Bah je suis Ilona, je suis en terminale. Et quand j'ai un peu de temps, bah, j'aime bien chanter toute seule dans ma chambre. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire tes influences musicales et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique ou à chanter ?
Alors, c'est que en sixième, il y a ma prof de musique qui m'a proposé de rentrer à la chorale du collège. Du coup, bah, pendant quatre ans, j'ai participé à la chorale. J'ai fait des petits duos, des solos aussi. Et concernant mes influences musicales, bon, c'est assez polyvalent. J'adore la pop américaine, le old rock. Je suis vraiment une fan d'Elvis Presley et j'adore Michael Jackson. Et sinon, j'aime beaucoup la musique classique. Voilà, Nocturne de Frédéric Chopin, je l'écoute en boucle.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la prestation qu'on va écouter ?
Oui, alors ce sera juste une sorte de cover. C'est Olivia Rodrigo et je vais chanter Happier. Voilà.
Oh, bah j'ai hâte d'entendre ça.
From all the sunlight of her past, but she is so sweet, she is so pretty. Does she mean you forgot about me? Oh, I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better.
Bravo Ilona, c'était magnifique.
Et maintenant, plongeons dans la vie du lycée. Un nouveau Zoom sur avec Sam et Lou qui vont nous faire rencontrer les élèves du CVL. On les écoute.
Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial, le président lui-même de la maison des lycéens.
Bonjour.
Bonjour Nels.
Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que la MDL et ce que vous y faites dans le lycée ?
Alors la MDL, c'est une association de lycéens, donc MDL qui veut dire Maison des lycéens. Donc c'est une association sous loi 1901, c'est-à-dire que chaque année, il y a une assemblée générale qui vise à élire un conseil d'administration qui va donc administrer l'association. Donc dans cette association, il y a uniquement des lycéens. Donc aucun adulte ni peut de prendre de décision. Et nous organisons au cours de l'année les événements dans le lycée, tels que le carnaval ou d'autres, comme la journée de l'élégance, la journée de l'amour et de l'amitié.
Quel type de relation entretiennent la MDL et le CVL et quelle est la différence entre les deux pour ceux qui ne savent pas ?
Alors il y a une très bonne relation entre la maison des lycéens et le conseil de vie lycéenne. La différence entre les deux, c'est que le conseil de vie lycéenne, c'est une instance du lycée. C'est-à-dire qu'il y a des membres de l'administration du lycée dans le CVL. Et le CVL donc, va gérer le lien entre les lycéens et l'administration du lycée. Donc pour tout ce qui va se rapporter aux cours, par exemple aussi à la cantine, pour des déplacements, des voyages, enfin tout ce qui a à voir avec l'administration, alors que la MDL, c'est une association à part, donc qui a le droit d'être dans le lycée, parce que le lycée l'autorise. Mais la MDL va du coup surtout se concentrer sur les événements dans le lycée pour faire vivre la vie lycéenne.
Que souhaiterais-tu dire aux secondes et premières qui souhaiteraient devenir un membre d'ici l'année prochaine ?
Bah, venez, c'est sympa. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du foyer dans cette interview, mais le foyer est aussi une activité de la maison des lycéens. Donc c'est un local qui est prêté par le lycée, donc à la maison des lycéens. Donc si vous souhaitez juste venir, être membre, être adhérent de la MDL, donc venez, c'est bien, ça fait des sous pour pouvoir faire les événements. Parce que les gens généralement se disent « Ah oui, mais les sous, ils vont où après ?» Bah, les sous, ils vont pour l'entretien du foyer, pour l'organisation des événements.
Donc tu nous as parlé du foyer, cette pièce, et j'ai entendu dire que dans cette pièce il se trouvait un objet, plutôt un instrument.
un instrument au cœur des conflits, si je ne m'abuse. Le piano. Aurais-tu un mot à dire sur cet objet du diable ?
C'est un peu exagéré quand même, mais oui, c'est vrai que le piano a suscité quelques problèmes, mais donc nous avons trouvé une solution. Donc on a modifié le piano de l'intérieur pour y mettre des couches de laine, enfin pour atténuer le bruit des marteaux, et nous avons aussi limité l'utilisation du piano à une musique par personne par heure pour éviter qu'une personne fasse la même musique en boucle pendant une heure.
Donc, merci Nels d'avoir été présent avec nous.
De rien.
C'était très gentil.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci Samélou et avis aux amateurs, n'hésitez pas l'année prochaine à vous impliquer dans le CVL qui, vous l'avez compris, est essentiel à la vie du lycée. C'est déjà le tour de notre cinquième talent. Il s'agit d'Elisa Travis, présentée par Karine.
Merci Ilona. Je suis heureuse de vous présenter Elisa Travis, que je connais bien et dont j'admire le talent. Bonjour Elisa, peux-tu te présenter en trois mots ?
Bonjour. Alors, trois mots pour me présenter. Je dirais rousse, chanteuse et ambitieuse.
De très beaux mots pour te décrire, merci. Quelles sont tes influences musicales et qu'est-ce qui t'a amené à ta musique finalement ?
J'ai grandi dans la musique. Mon père est aussi musicien. Il compose et il joue de la guitare. Donc, j'ai toujours été entourée de musique. Et mes influences, c'est surtout le rock anglais, vu que j'ai grandi dans ce pays, j'en écoutais beaucoup.
Et peux-tu nous présenter ta prestation ?
Ma prestation, c'est une chanson que j'ai écrite avec mon groupe. Elle s'appelle Darkness. C'est sur une personne qui a des idées très sombres. Et on va d'ailleurs l'enregistrer bientôt en studio. Et on va la sortir sur nos plateformes.
Encore un talent plus que prometteur, bravo Elisa.
Sans plus attendre, un second micro-trottoir avec notre équipe de choc, Mélodie et Karl, qui sont partis à la rencontre des élèves de BTS de Madame Jean Billou et ont participé au concours d'éloquence. Écoutons ensemble leurs ressentis, leur expérience.
Donc bonjour, vous avez participé à un concours d'éloquence avec les BTS. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience, comment ça s'est passé ?
Alors bonjour, ce fut une expérience très enrichissante qui m'a permis de pouvoir m'exprimer, donner mes idées et pouvoir développer un avis constructif et qui a pu rassembler du monde autour de moi. Ce fut une super expérience car elle m'a permis de pouvoir rencontrer des personnes et des professionnels de l'immobilier, du bâtiment, mais également un grand écrivain. Je voulais remercier Mehdi Viardot et le lycée Bossé de m'avoir permis d'obtenir ce Graal, cette victoire, et ainsi continuer dans cette voie.
Ce concours d'éloquence de l'immobilier m'a été très enrichissant et professionnalisant. Au cours de ce discours, n'ayant remis mon avenir entre les mains d'un destin incertain, j'ai participé à cette expérience par ma propre volonté et travaillé mon texte avec ses émotions, déterminé à être éloquent. C'est ainsi que je remercie les professionnels qui ont été présents et de nous avoir permis de briller devant leurs yeux et devant un public, à notre façon, à notre manière.
Donc, comme l'a dit Tao, ça nous a permis de nouer des liens avec des professionnels et ça a été une expérience très enrichissante, donc pour moi comme pour lui. Ça a été une expérience très stressante, mais ça a permis de me dépasser. Et je n'aurais jamais pensé arriver sur le podium. Surtout que ça n'a pas été de ma propre volonté que j'ai participé, contrairement à Tao. Mais au final, ça a été une très très bonne expérience que je referai l'année prochaine.
Merci beaucoup à notre équipe sur le terrain et à Iliès, Tao et Sarah du BTS Profession Immobilière qui ont remporté les 3 premières places du concours d'éloquence. C'est maintenant au tour de notre 6e et dernier talent et c'est Alexis Bourret que vont nous faire découvrir Max et Lou.
Donc Alexis est un orateur hors pair, un passionné de littérature, de philosophie et de musique, un vrai touche-à-tout bourré de talent. Et il nous réserve pour finir un choix plein d'émotions. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots?
Oui, je m'appelle Bourré Alexis, je suis en terminale 1. Donc comme l'a dit Maxime, j'aime beaucoup la littérature, la musique et voilà.
Est-ce que tu peux nous dire tes influences musicales et littéraires?
Oui, bien sûr. Bah, j'aime beaucoup le rock des années 60, les Beatles, ce genre de groupe, les Rolling Stones, tout ça. Mais aussi la chanson française, j'aime beaucoup la chanson française, notamment Jacques Brel, Barbara, Brassens et Ferré aussi.
Est-ce que bah, tu pourrais nous parler de la prestation que nous allons entendre?
Oui, bien sûr. Donc je vais vous conter un texte de Louis Aragon, qui est donc l'affiche rouge, qui a été mise en musique par Léo Ferré. Elle a été reprise il n'y a pas longtemps par Feu Chatterton, parce que Misak Manoukian, donc le résistant, le fameux résistant, a été panthéonisé cette année. Et je vais tout d'abord lire les premières strophes du poème, et ensuite Liana Diès m'aidera à compléter cette parole par une strophe musicale. L'affiche rouge, un poème de Louis Aragon. Vous n'avez réclamé la gloire, et les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts de matin s'en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février et pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Quelle émotion et quel magnifique poème! Une leçon de courage et d'engagement, un exemple pour nous tous citoyens. Bravo Alexis!
Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute et pour votre fidélité, chers auditeurs. Nous remercions également tous les talents qui se sont prêtés au jeu du live, ainsi que nos chroniqueurs qui ont effectué un travail de longue haleine toute cette année pour vous proposer des émissions variées et régulières.
Nous avons également une pensée pour les autres élèves de la web radio qui ont élaboré les podcasts en français et en anglais cette année. Merci et bravo à vous, ainsi qu'à l'équipe technique, Alessandro et Wannis, qui ont assuré en coulisses pour rendre tous les lives disponibles. Enfin, nous remercions Madame Mattedi et Monsieur Drago pour le soutien apporté à la web radio, ainsi que Mesdames Lemercier et Chafanel qui sont toujours là quand il faut. Et ça, ce n'est pas la moindre de leurs qualités. On vous souhaite à tous une excellente fin d'année, beaucoup de courage pour les terminales, profitez bien du lycée jusqu'aux vacances et on vous dit à l'année prochaine et vive Radio Bossier.